Un texte tiré de son contexte, c'est toujours un prétexte. Et la Bible, il ne faut jamais la lire un texte isolé de tout le reste. Sinon, on peut lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que Jésus, il est un peu contre la joie, contre tout ce qui fait plaisir, parce qu'il dit « Malheureux, vous qui riez maintenant, vous pleurerez plus tard. Et heureux ceux qui pleurent, parce qu'après ils riront. » Du coup, on peut avoir l'impression que Jésus, il veut qu'ici sur terre, on souffre et on sera heureux plus tard. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, si on le lit dans le contexte de l'ensemble de la Bible. Mais c'est vrai qu'on a souvent eu l'impression que le christianisme, c'était ça. Une sorte de dolorisme, souffre sur terre, t'inquiète pas, ça ira mieux quand tu arriveras au paradis. Et des philosophes du 19e siècle, comme par exemple Marx, avaient critiqué ça. Ils disaient que la religion, c'était l'opium du peuple, c'est-à-dire que les chrétiens feraient mieux de résoudre leurs problèmes et de s'engager dans la lutte de classe plutôt que de rêver dans un au-delà dans lequel tout ira mieux et que le vrai enjeu, c'est maintenant, c'est la vie de maintenant. Et d'ailleurs, on a même, on raconte que quand la Vierge Marie est apparue à Lourdes, vous savez qu'avant-hier c'était la fête de Notre-Dame de Lourdes, et elle aurait dit à Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Et en fait, c'est une fausse traduction. Il paraît que dans le patois de Lourdes que Marie a employé quand elle a parlé à Bernadette, il aurait fallu plutôt traduire « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre. » Je ne sais pas si vous voyez la différence de nuance. Ce n'est pas la même chose de dire « Je vous promets le bonheur dans l'autre monde » que de dire « Je vous promets le bonheur de l'autre monde ». Ça veut dire que ici sur Terre, Dieu peut nous donner un bonheur, mais n'est pas tout à fait pareil que le bonheur que le monde connaît. C'est un autre type de bonheur, c'est le bonheur de l'autre monde. Mais il n'y a pas besoin d'attendre la mort pour l'avoir. Et c'est de ce bonheur-là que Jésus parle quand il dit « Heureux êtes-vous !» Et là, il cite tous les malheureux de ce monde. Comme pour leur dire, si je devais résumer toutes ces béatitudes, « Heureux, vous, qui ne vous contentez pas des petites joies superficielles du monde, parce que vous pourrez aspirer à une autre joie beaucoup plus profonde, à un bonheur qui n'est pas de ce monde. » Si on lit ce texte dans son contexte, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire si vous prenez la Bible et que vous cherchez le chapitre 6 de Saint-Luc, vous verrez qu'est-ce qui se passe juste avant que Jésus dise ça, juste avant que Jésus proclame « Heureux les malheureux de ce monde » et « Malheureux les heureux de ce monde ». En fait, juste avant, il y a une foule qui vient à Jésus, une foule de malades, et Jésus les guérit. Il ne fait pas un miracle, il en fait deux, il fait plein de miracles, il en guérit plein. Et après leur avoir donné la santé, le bonheur du corps, il leur dit, oui mais attention, c'est pas celui-là qui est le plus important, c'est le bonheur de l'âme. Un peu, vous voyez comme dans un autre épisode, quand il guérit le paralytique, et il lui dit d'abord, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite les gens n'y croient pas, et du coup il dit, lève-toi, et là il le guérit. Mais en fait lui, ce qui lui intéressait surtout, c'était de guérir son âme. Et ensuite, il guérit le corps parce que visiblement, il faut le faire pour que les gens y croient. Mais donc oui, il fait le miracle parce que ça permet d'éveiller la foi. Mais lui, ce qui lui intéresse, c'est surtout cette foi qui guérit l'âme. Et oui, parce que la santé du corps, elle ne durera pas plus d'un siècle. Alors que la santé de l'âme, c'est pour toute l'éternité. Vous vous rendez compte? Un siècle, c'est rien du tout un siècle. On court après la santé du corps, mais la santé du corps, elle ne va pas durer plus d'un siècle. C'est rien du tout. Alors que la santé de l'âme, c'est pour toute l'éternité. Et donc, c'est ça qui intéresse Jésus. C'est ça que Jésus veut nous donner. C'est la santé de l'âme, pas la santé du corps. Même si la santé du corps reste quand même importante. Moins que l'autre, mais elle est quand même importante. Donc, heureux, c'est lui qui ne se contente pas des petits bonheurs de la terre, parce qu'il ira chercher le vrai bonheur. Donc il y a bien deux types de bonheur différents. Et il y a le bonheur que le monde nous promet et le bonheur que Dieu nous promet. Et donc, pour vous comparer ces deux types de bonheur, je vais vous présenter deux figures. La mort du Christ et la mort du Bouddha. Vous verrez les deux idéaux qui sont différents. Il existe deux façons d'affronter notre vie sur Terre. Soit avec l'idéal bouddhiste, soit avec l'idéal chrétien. Alors, le Bouddha est mort en fleur de lotus, complètement zen, tranquille. Il avait réussi l'apaisement complet. Il avait réussi à ne pas souffrir. Il était devenu indifférent à tout, et par ce fait, il ne pouvait plus souffrir. Ça, c'est l'idéal bouddhiste, c'est ne pas souffrir, quitte à devenir indifférent à tout. Alors que le Christ, lui, il est mort non pas replié, mais tout le contraire, écarté, en croix, en train de souffrir atrocement et d'aimer au-delà de toute souffrance et de pardonner au-delà de toute souffrance. Et là, on touche du doigt l'idéal chrétien qui est tout autre. L'idéal chrétien, c'est d'aimer, quitte à souffrir. Alors que l'idéal bouddhiste, c'est de ne pas souffrir, quitte à ne pas aimer. Eh bien, notre monde matérialiste a choisi plutôt l'idéal bouddhiste, c'est-à-dire ne pas souffrir et être prêt à tout pour ne pas souffrir, quitte à ne pas aimer non plus. Parce que quand on aime, on souffre. Alors que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui que le vrai bonheur n'est pas celui que le monde nous promet, n'est pas celui de fuir la souffrance. Le vrai bonheur, c'est celui d'aimer jusqu'au bout, même si cet amour nous fait souffrir. Et de fait, c'est vrai que les personnes les plus heureuses, ce sont les personnes qui ne cherchent pas le bonheur. Ce sont les personnes qui aiment quelqu'un tellement qu'ils cherchent le bonheur de ce quelqu'un jusqu'à presque oublier le leur. Et ce sont ces personnes qui ne cherchent plus le bonheur qui, paradoxalement, ce sont les personnes les plus heureuses. Allez, accrochez-vous, je n'en suis même pas à la moitié de tout ce que j'ai à vous dire. Mais c'est tellement intéressant et tellement riche, et je ne peux pas m'empêcher de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Tout cela nous renvoie à la première lecture, Jérémie chapitre 17. Malheureux l'homme qui met son espoir dans des êtres de chair, et heureux l'homme qui met son espoir en Dieu. Et oui, quand on court après des garanties humaines de confort, de sécurité, on est à la merci de tous les aléas de la vie, de tout ce qui peut nous arriver. Et Dieu sait combien de gens se tournent vers des messies terrestres. Tel politicien, c'est lui qui va nous sauver. Tel médecin, tel je sais pas quoi, vous voyez, que qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit, vous voyez, et il y a toujours c'est un tel qui va me sauver. Et en fait, malheureux celui qui met son espoir dans un être de chair. Il sera à la merci de tous les aléas de la vie. Et la première lecture disait qu'il est comparable à un buisson qui a la merci de s'il pleuvra ou s'il pleuvra pas. Alors que l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, il est comparable à un arbre à côté d'un ruisseau qui ne craint pas une année de sécheresse parce que qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, lui, il a de l'eau à côté. Donc, il sera arrosé. Si le but de votre vie n'est pas la santé du corps, mais la santé de l'âme, celle qui dure toute l'éternité, alors vous ne craindrez pas une année de pandémie, une année de je ne sais pas quoi, parce que, bien sûr que la santé du corps est importante, mais elle est tellement secondaire par rapport à la santé de l'âme. Et vous vivrez dans cette tranquillité de dire bon, la chose la plus importante de ma vie, c'est Dieu, et Dieu, je l'ai. Et Dieu, je ne le perdrai pas. Si je perds tout le reste, c'est pas grave, il y a Dieu. Attention, ça veut pas dire qu'il faut être indifférent à tout. Ça, c'est peut-être pour les bouddhistes, mais pas pour nous. Nous, il faut pas être indifférent à tout. Mais il s'agit de s'occuper de ses problèmes sans se préoccuper. Je m'occupe de mon travail, de ma famille, de ma santé, etc. Mais je ne m'en préoccupe pas. Je m'en occupe, mais je ne m'en préoccupe pas. C'est tellement secondaire par rapport à ce qui est vraiment important pour moi, c'est-à-dire faire le dessein de Dieu sur ma vie, le réaliser. devenir un saint. Soignez mon âme, parce que elle, le bonheur de l'âme, il est pour toute l'éternité. Allez, courage, j'ai déjà dépassé la moitié de l'homélie. Le psaume insiste encore sur cette idée de l'arbre planté près d'un ruisseau. Il dit que c'est l'homme qui murmure la parole de Dieu jour et nuit qui ressemble à un arbre planté près d'un ruisseau. C'est vrai que si vous vous imprégnez de la parole de Dieu, de plein de toutes les paroles de la Bible, vous allez voir combien elle vous habite dans les moments difficiles et dans les années de sécheresse. Toute la parole de Dieu que vous avez ruminée, elle est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous soutenir dans les moments difficiles. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Et cette parole, de quoi elle parle? Elle parle de beaucoup de choses, mais notamment elle parle de vie éternelle, de bonheur éternel, de résurrection après notre mort. Et ça va être mon dernier point. La deuxième lecture d'aujourd'hui, qui insiste sur la même idée, première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Le Christ est ressuscité, et donc les morts, eux aussi, pourront ressusciter. Attention à cette phrase, elle est forte. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et oui, suivre Jésus, c'est pas en vue de garantie humaine, c'est en vue de la vie éternelle. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont en commun? Vous avez remarqué qu'en France, là, il y a deux camps. Il y a ceux qui ont peur du Covid et il y a ceux qui ont peur du vaccin. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont en commun, les uns et les autres? Ceux qui ont peur du Covid et ceux qui ont peur du vaccin? Enfin, du moins, la plupart. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux ont peur de la mort. Et voilà que, justement, la Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort et que si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et oui, Jésus est venu pour nous libérer de cette peur. Et celui qui met sa foi dans le Seigneur, celui qui vit en vue de l'éternité et non pas en vue des petites choses de la terre passagères, lui, il ne craint pas une année de sécheresse, il ne craint pas une année de pandémie. Il a planté son arbre à côté du ruisseau. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, il sera arrosé. Je pense que la véritable crise que le monde traverse en ce moment-là, c'est une crise de peur, qui est la conséquence de 50 ans de matérialisme. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on a tourné le dos à Dieu. Ça fait 50 ans qu'on ne vit que pour la richesse, pour le confort, pour tout un tas de garanties matérielles. Et du coup, au moment où la situation mondiale se déstabilise et qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on va devenir, là, du coup, la panique, la peur envahit tout le monde, saut d'un camp et saut de l'autre camp. Et oui, et en fait, c'est ça qui manque, c'est qu'on est devenu trop matérialiste. Et je pense que c'est un peu la faute à nous, les prêtres, aussi. Parce que, depuis à peu près les années 70, on ne prêche plus beaucoup sur les fins dernières. Vous savez, avant, on prêchait surtout sur le ciel, l'enfer. Et le plus important, c'est de sauver ton âme. Et bon, t'es malheureux sur terre, c'est pas grave. Et donc, la critique de Marx a été tellement forte. Les religions, c'est l'opium du peuple. Les chrétiens feraient mieux de résoudre leurs problèmes plutôt que de rêver d'un au-delà où tout ira mieux. Et du coup, aux années 70, on a fait le contraire. On a arrêté de prêcher sur l'éternité, sur les fins dernières, et on a prêché sur l'aujourd'hui de Dieu. Et le plus important, c'est que c'est trop bien d'être chrétien déjà sur terre. Il n'y a pas besoin d'attendre après la mort. Viens à la messe, pas seulement parce que c'est trop bien d'aller au ciel après la mort. Non, viens à la messe parce que c'est déjà trop bien la messe sur terre. T'as même pas besoin d'attendre la mort pour que ça vaille la peine. Et en fait, on est passé d'un excès à l'autre. Et c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. En fait, Saint Paul l'a dit très fort. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de suivre Jésus si c'est juste pour les petites choses que ça nous apporte quand on est sur terre. Ça vaut la peine si c'est en vue de l'éternité. Et c'est ça l'objectif. C'est le ciel, le paradis. Vous voyez, moi j'étais marqué dans ma jeunesse par toutes ces personnes qui m'ont témoigné que depuis que j'ai la foi, je suis tellement heureux. Ça m'a donné envie d'avoir la foi. Et c'est vrai, la foi ça rend heureux sur terre. Mais c'est tellement secondaire par rapport au principal qu'est le bonheur d'après la mort, l'éternité. Allez dire à un chrétien de l'église clandestine de Chine qui risque sa vie pour aller à la messe et qui y va quand même. Allez lui expliquer que ouais, c'est trop bien d'être chrétien, c'est trop bien d'aller à la messe, allez, viens. Il y va pas pour ça, il risque sa vie. Il y va parce qu'il en va de l'éternité, parce qu'il veut que sauver son âme. Allez dire à quelqu'un qui meurt martyr en Arabie Saoudite, égorgé par un islamiste, allez, et qui laisse une femme veuve et des orphelins, allez leur dire « Ouais, c'est trop bien d'être chrétien. » Il ne fait pas ça en vue de garantie terrestre. Il fait ça parce qu'il sait que Jésus est plus fort que la mort et qu'il en va de l'éternité. C'est ça le vrai enjeu. Vous voyez, cette parole de Paul que nous avons eu en deuxième lecture, il a eu un impact sur le premier chrétien, parce qu'elle, parmi d'autres, a donné la force à toute cette première génération de chrétiens de rester fidèles jusqu'à la mort, coûte que coûte. Et ce qui a fasciné l'Empire romain et qui fait qu'en 4 siècles, tout l'Empire romain est devenu chrétien, c'est que les gens voyaient des hommes qui n'ont pas peur de la mort. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il y avait des hommes qui n'avaient pas peur de la mort. Les chrétiens restaient fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Et on les menaçait de les torturer, de se faire dévorer par les bêtes dans le cirque romain, dans le Colisée. Et ils avaient peur de rien. Ils avaient peur de rien. Parce qu'ils savaient que Jésus était plus fort que la mort et que eux aussi, il ressusciterait pour une vie éternelle, pour un bonheur éternel, s'il restait fidèle jusqu'au bout. Voilà l'espérance chrétienne. Vous savez, nous avons un célèbre cri de guerre, n'est-ce pas, les chrétiens? On dit « Le Christ est ressuscité !» Et on répond « Voilà. Je termine. Je pense que nous, les prêtres, et pas seulement les prêtres des années 70, mais même nous, les prêtres de 2020, 2021, 2022, c'est un peu notre faute. Si le matérialisme s'est envahi partout et que la peur de la mort paralyse le monde en ce moment, je vais vous donner un exemple bête. Il y a eu, en 2020, le premier confinement, et on nous a interdit de fêter la Pâque. Et nous, les prêtres, on n'a rien dit. C'est grave. Bon, rassurez-vous, il y a beaucoup de prêtres qui ont fait des messes clandestines. Mais bon, par définition, une messe clandestine, tu ne peux pas l'annoncer en public. Donc, le message qui est passé partout, c'est « Occupez-vous de la santé de votre corps, c'est le plus important. Ne vous occupez pas de la santé de votre âme. » C'est grave. En 2000 ans, on n'a jamais manqué à la Pâque. Enfin, je dirais même plus. Enfin, depuis avant la Pâque juive, avant la Pâque chrétienne, il y avait la Pâque juive. Ça fait 3200 ans que à chaque première pleine lune du printemps, on se rappelle de ce que Dieu a fait. Et nous, prêtres, on a laissé passer ce message. Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est le plus important, c'est la santé du corps. Santé de l'âme, on verra ça plus tard. Et on a fait des discours, oui, non, mais c'est la communion spirituelle. Si tu as envie de recevoir Jésus, il te donne les mêmes grâces. Oui, si ce n'est pas ta faute, et que tu voulais recevoir la communion et que tu n'as pas pu. Oui, ben, ce n'est pas ta faute, Dieu te donnera les mêmes grâces. Mais quelle responsabilité pour le prêtre qui aurait pu te donner le sacrement et qui ne t'a pas donné ce sacrement-là, quelle responsabilité! Allez dire au père Damien de Molokai, qu'il vaut mieux rester à la maison. Vous savez, le père Damien de Molokai, il a vécu il y a déjà plusieurs générations. Il est allé dans une île habitée par des lépreux, où ils étaient confinés à vie, et il est allé leur donner les sacrements. Et il est resté là-bas jusqu'à contracter la lèpre et jusqu'à mourir de la lèpre. Lui, il n'est pas resté à la maison en disant « Oui, ne vous inquiétez pas, le plus important c'est la santé, oui, priez, le bon Dieu vous donnera la grâce d'une communion spirituelle. » Non, non. Lui, il a risqué sa vie parce qu'il savait que le plus important c'était la santé de l'âme. Je me permets de rendre hommage à de très nombreux prêtres, surtout en Italie, mais pas que, qui, en plein confinement, en pleine première vague de Covid, sont morts pour aller donner les sacrements aux malades du Covid et qui ont attrapé le Covid et qui sont morts. Je leur rends hommage. Enfin, tout ça pour dire que si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Je vais vous laisser sur une phrase qui me paraît le verset de la Bible qui a le plus d'actualité depuis le début de la crise du Covid. C'est la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 15. Il dit le suivant. Le Christ a pris notre chair et notre sang. Il est venu pour nous libérer, pour libérer tous ceux qui, par peur de la mort, vivaient comme des esclaves. Je vous le redis, le Christ est venu libérer tous ceux qui, par peur de la mort, vivaient comme des esclaves. Alors, ayez peur de la mort, vous passerez votre vie comme des esclaves. Alors que c'est Jésus, et Jésus seul, le sauveur du monde. Le sauveur du monde n'est pas tel politicien, le sauveur du monde n'est pas tel remède contre telle maladie. Le sauveur du monde, c'est Jésus, et Jésus seul. Amen.